Est-ce que vous connaissez le président de la République de France? Vous le connaissez? Vous le connaissez pas? Est-ce que vous connaissez son nom? Qui ne connaît pas le nom? Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. Et c'est vrai que connaître Jésus, vouloir le connaître davantage, connaître le Seigneur, c'est autre chose que de connaître juste le nom ou de savoir quelques bribes qu'on nous a données, peut-être dans notre éducation religieuse. Et c'est vrai que nous pouvons bénir le Seigneur chaque fois que nous avons ces occasions de pouvoir nous approcher de lui. Ce n'est pas les seules occasions que nous avons. Nous avons de multiples occasions à titre personnel, que ce soit dans notre chambre, dans notre coin secret, dans la maison, dans la nature, quel que soit l'endroit, nous avons tellement de moments pour apprendre à connaître le Seigneur, et notamment au travers de sa parole. Et c'est vraiment important, et nous pouvons bénir le Seigneur pour ces temps où nous apprendrons à le connaître d'une manière encore plus intime. Et c'est un petit peu ce que je voudrais partager avec vous ce soir, et parler peut-être sur ces richesses de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que s'approcher du Seigneur, on considère véritablement que c'est notre bien, c'est sûr, mais on peut s'arrêter sur quelques richesses particulières pour que nous soyons encouragés les uns et les autres à approfondir, comme cela a été dit au travers des chants, et notamment au travers de ce dernier cantique, que nous puissions être encouragés à approfondir notre relation d'intimité avec le Seigneur. On peut le dire comme cela. Rappelez juste en introduction que vous savez que l'Évangile nous parle de la foi comme une rencontre personnelle avec Dieu. L'Évangile nous présente la relation avec Dieu non pas comme une religion, mais comme une relation personnelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14 au verset 6. Nous avons réalisé au travers de l'Évangile qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire humain, pas besoin de rite religieux, mais besoin d'une rencontre personnelle avec Christ, chacun. Aucune communauté ne peut prétendre détenir la vérité, mais toutes les communautés doivent conduire à celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Nous partagions dimanche après-midi le témoignage de Jésus, Mère de Marie, qui a été ce modèle pour nous aussi, pour nous montrer que nous devons amener les âmes à recevoir la parole de Christ. C'est fondamental. La foi, c'est une rencontre personnelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. » C'est Christ qui nous a ouvert le chemin de la foi dans Hébreux 12, verset 2, dans la version Semeur ou parole de vie, parole vivante, peu importe. C'est lui qui fait naître la foi et qui va aussi la rendre parfaite. Et c'est vrai que nous rappelons régulièrement, et nous pouvons le faire encore ce soir, que c'est bien sûr au travers du sacrifice de Jésus à la croix, c'est au travers de ce sacrifice que nous avons accès auprès du Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il a inauguré pour nous cette route nouvelle, une route vivante, au travers du voile qui est en définitive sa chair dans Hébreux chapitre 10, verset 19. On peut avoir entendu parler de Jésus de diverses manières. Je parlais tout à l'heure de la tradition, dans la famille, il y a de multiples manières. Mais on peut dire, et je pense que pour chacun d'entre nous c'est le cas, on peut dire que le moment qui a été décisif pour nous, c'est le moment où nous l'avons rencontré personnellement. Vous vous rappelez de ce jour-là? Moi, j'avais tellement entendu parler de lui. Je connaissais l'Évangile, je connaissais... Mais par contre, ce jour-là, cette rencontre personnelle, ça bouleverse une vie, ça change tout. Il y a cette rencontre, vous savez, de Jésus avec la femme samaritaine. Elle aussi, elle a été bouleversée par cette rencontre. Donc, en introduction, je voulais juste rappeler que la foi, c'est vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Et après, Que devient cette relation avec le Seigneur une fois qu'il y a eu cette rencontre avec le Seigneur? Et on va faire une petite comparaison. Ce n'est pas une lubie de ma part, vous inquiétez pas. Le Seigneur le fait lui-même dans la parole, vous le verrez, et vous trouverez aussi des versets abondants. On va comparer cette relation avec le Seigneur. C'est une relation, la foi, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Il nous a aimés, nous l'aimons en retour, relation d'amour. On va le comparer, je vais faire un petit peu d'exhortation aussi conjugale, peu importe comment ça peut être perçu, et parce que je crois qu'on peut comparer cette rencontre avec la rencontre d'un homme et d'une femme. Et vous savez que la parole de Dieu fait souvent ce parallèle. Il est dit, par exemple, ce verset, « Marie... » Alors les maris, qu'est-ce qu'il y a écrit après? En général, c'est les femmes qui le savent, ce verset. Hein, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle » dans Éphésiens 5, 25. Vous voyez ce parallèle? « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi tant de conflits, pourquoi parfois tant de divorces, de séparations? Que reste-t-il dans les relations conjugales, parfois de cet amour vif et ardent que nous avions au premier instant, la rencontre, l'engagement devant le maire, devant les hommes, devant le Seigneur aussi? Une des raisons, alors c'est pas la seule raison bien sûr, c'est souvent même des raisons qui sont complexes, mais parfois c'est aussi la négligence de l'intimité. Et je crois que aussi dans la vie du croyant, il y a peut-être parfois aussi cette négligence de l'intimité avec le Seigneur qui peut-être occasionne une certaine rupture dans la relation. On voit que peut-être au bout de certaines années, bien certains n'ont pas le même engouement, n'ont pas le même amour. Vous savez comment le Seigneur, dans l'Apocalypse, encourage cette Église à retrouver ce feu du premier amour, et que nous pouvons reconnaître que peut-être pour diverses raisons, parfois, nous sommes un peu éloignés de ce brûlant amour que nous avions pour le Seigneur comme au premier jour. Et peut-être, si nous analysons, si nous réfléchissons et si nous prions le Seigneur, nous pouvons reconnaître, en tout cas cela est évident dans certaines situations, que nous avons négligé l'intimité avec le Seigneur. Alors, quelques richesses, peut-être qu'on les verra, peut-être pas toutes ce soir, on verra, on va se laisser conduire, mais quelques richesses qui se dégagent d'une vie réelle et profonde d'intimité avec le Seigneur. Et cette première richesse, eh bien, c'est pourquoi c'est important d'avoir une vie intime avec le Seigneur, pour ranimer justement le feu du premier amour. Vous savez, l'amour, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est celle de toute une vie, où nous avons la responsabilité de cultiver et entretenir notre relation par des moments d'intimité avec le Seigneur. Pourquoi, je me suis souvent posé cette question, pourquoi certains ressortent de nos cultes, de nos rencontres particulières, avec un cœur bouillant pour le Seigneur, sont prêts à prendre des décisions, à faire des choses. Et pourquoi ils sortent de ces temps-là et après, plus rien? C'est peut-être parce que le culte, ces rencontres, c'est peut-être le seul moment d'intimité qu'ils ont avec le Seigneur, et c'est peut-être un peu faible. On a besoin de ranimer le feu du premier amour par des moments d'intimité. Pour qu'un feu ne s'éteigne pas, qu'est-ce qu'il faut? Ou alors pour qu'il s'éteigne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il n'y ait plus de combustible, tout simplement. Vous savez, pour les forêts, pour que les incendies ne se propagent pas, ils sacrifient des hectares entiers de forêt pour justement que, bien, à un moment donné, quand l'incendie arriverait à cet endroit, il n'y ait plus d'arbres à brûler. Donc ça fait un peu une coupure d'incendie. Pour qu'un feu ne s'éteigne pas, eh bien, il faut du combustible. Et j'aime garder cette image, vous savez, de cette locomotive. Alors maintenant, ça marche à l'électricité, mais avant, ça marchait au charbon. Et on voyait ces gars-là, avec la grosse pelle, allez, alimenter, mettre du charbon en permanence. Il faut qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Mettre du combustible, il faut prendre du temps. Tête à tête, se mettre à l'écart, peut-être s'isoler parfois des bruits de la vie, pour raviver la flamme de notre amour. Allez, on lit un verset ensemble parce que je vous sens perplexe. Apocalypse 2, verset 1er. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on va le lire ensemble. Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Dans une autre version, Sommer, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Cette église, elle était pourtant au travail, vous avez vu, hein, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais peut-être qu'à force, elle le faisait par routine, mais non plus dans une relation vivante avec le Seigneur, une relation d'amour. En tout cas, il y a un seul reproche à faire, c'est que tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Vous savez, dans la relation conjugale, ça peut être aussi une relation qui devient une relation de routine. On fait des choses, voilà, on est habitué, on vit. Et si quelqu'un regarde de l'extérieur une vie de couple de cette manière-là, eh bien, peut-être que ça peut sembler exemplaire. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on est rentré dans une routine, et peut-être qu'il n'y a plus ce feu, cet amour qu'il y avait comme les premiers jours. Et je crois que les moments d'intimité dans un couple permettent de raviver cette flamme aussi, d'un feu qui ne devrait jamais s'éteindre. Et les moments d'intimité avec Dieu dans sa présence entretiennent. C'est là qu'on met du combustible, on est un petit peu comme ces hommes dans la locomotive, ça y est, clac, on met du charbon, on met du combustible, on ravive la flamme d'un feu qui ne devrait, là aussi, encore plus, excusez-moi le parallèle avec la relation conjugale, mais c'est parce que parfois elle nous permet de mieux considérer, c'est sans aucune mesure, bien sûr, la relation conjugale et la relation que nous avons avec le Seigneur, mais en tout cas, les moments d'intimité dans la présence du Seigneur entretiennent le feu du premier amour. Vous vous rappelez l'histoire des disciples d'Emmaüs, qu'ils étaient découragés, voilà, eux, par contre, il y avait presque plus rien. Et à un moment donné, il est écrit ceci, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Là, un moment d'intimité avec le Seigneur qu'il ne savait pas, il ne réalisait pas, mais en tout cas un moment de relation avec le Seigneur qui a permis de raviver cette flamme dans leur cœur. Et je crois qu'il est important de réaliser que si nous ne vivons pas ces moments de relation ou si nous les vivons très peu, comme je disais tout à l'heure, de ces personnes qui, lorsque autour d'un culte ou d'une réunion particulière, sont vraiment fortifiées, si ces moments sont trop rares dans notre vie, eh bien, il faut peut-être malheureusement s'attendre à ce que notre vie ne soit plus qu'une vie de routine. Nous pourrions être engagés véritablement dans les œuvres du Seigneur, nous-mêmes faisant, et parce que, eh bien, on a pris aussi cette excellente et bonne habitude de le servir, mais nous pourrions le faire comme l'Église d'Éphèse, d'une manière routinière. Et ce que veut le Seigneur, c'est que nous ayons toujours dedans de nous ce feu du premier amour. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, au travers de rencontres comme ce soir, au travers de sa parole, eh bien, il veut nous attirer encore à lui. Il ne veut pas nous juger, il veut parler à notre cœur, même si parfois il peut nous amener au désert pour le faire, qu'importe les circonstances qu'il permettra. Comme il le dit dans le prophète Osée, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Osée 2, verset 16, Dieu est bon. Combien, et c'est vrai que c'est un, je dirais pas un triste témoignage, mais combien sont revenus au Seigneur, combien ont retrouvé la flamme du premier amour dans des moments, dans des temps et dans des circonstances difficiles. Je ne dis pas qu'il faut demander au Seigneur de nous les donner, autant entretenir, voilà, ce feu, mais qu'importe. Ce qui est important de se rappeler, c'est que il soufflera même sur une étincelle d'amour, même si c'est qu'une petite braise qui est à deux doigts de s'éteindre, parce qu'il est écrit dans la parole qu'il ne brisera point le roseau cassé. Et ça doit nous encourager à continuer à prier pour celles et ceux, comme cela a été dit tout à l'heure dans la prière, pour celles et ceux qui ont entendu le Seigneur, qui sont peut-être engagés dans les eaux du baptême, et qui aujourd'hui n'ont plus de relation même avec le Seigneur. Je ne parle pas d'une relation avec l'Église, mais je parle d'une relation avec le Seigneur, des gens qui ne prient plus, des gens qui ne lisent plus la parole. Eh bien, ce verset peut nous encourager. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étreindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice » dans Matthieu 12, 20. Et son désir, finalement, c'est de souffler sur ces petites braises afin que le feu reprenne. Donc ça, c'est une des premières richesses de l'intimité avec Dieu. C'est pour ranimer le feu du premier amour. Alors, une autre richesse, eh bien, c'est que dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, c'est pour pouvoir aussi y puiser des forces. On a besoin de puiser des forces dans cette relation avec le Seigneur. Combien d'hommes et de femmes, amis, collègues, etc., sont tristes, découragés, déprimés, car ils n'ont pas su ou pas pu, je ne suis pas dans un format de jugement, ne vous inquiétez pas, mais parce qu'ils n'ont pas pu ou su renouveler leur force dans l'intimité du couple. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des collègues et tout ça qui passent par des moments difficiles dans leur relation de couple, etc., et être dans des situations difficiles, compliquées, et parfois parce que, c'est une force aussi, cette relation où nous avons avec un conjoint, tout ça, qui nous permet d'affronter des situations particulières dans notre vie. Mais à l'inverse, si nous ne les avons pas, nous pouvons subir beaucoup, beaucoup nos journées, et elles peuvent devenir pesantes. Et quand vous discutez avec ces personnes, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement une difficulté dans la relation conjugale. On peut regarder, quand on regarde autour de nous, que autant ça peut être une force pour certains, autant, parce que c'est mal vécu peut-être, un poids et un fardeau pour certains. Et je crois que le croyant aussi, il a besoin de la même manière de renouveler ses forces dans ses moments d'intimité avec le Seigneur. Voilà, on ne peut pas se croire plus fort que les autres. On a besoin, les uns et les autres, de ces moments d'intimité pour puiser des forces, que de découragement, que d'inquiétude, même dans le peuple de Dieu parfois, que de soucis et même de dépression. Je redis que je ne juge pas, d'accord ? Je fais un état, tout simplement, pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ, qui pourtant est appelée à vivre sans inquiétude. Jésus l'a dit plusieurs fois, ne vous inquiétez de rien. Et je crois que le croyant a aussi besoin de ces temps d'intimité pour puiser les forces nécessaires. C'est dans l'intimité qu'un couple pourra renouveler sa confiance mutuelle. Faire sentir à l'autre combien il peut se sentir appuyé, c'est extraordinaire. De sentir qu'il y a quelqu'un qui est là non seulement pour vous écouter, mais vous savez que par l'amour qu'il a pour vous, il est prêt à faire des choses, et des choses, des exploits même. Combien c'est bon de pouvoir compter sur quelqu'un, compter sur lui, compter sur elle. Et je crois que dans nos moments d'intimité, particulièrement autour de sa parole, comme il l'a fait même dimanche matin, je pensais beaucoup aussi à ce message que nous avons entendu, Dieu nous rappelle ces choses pour que nous soyons encore plus forts, lorsqu'il cherche à nous encourager. Et prenons par exemple ce verset, je pensais à ce verset quand notre frère nous disait un autre verset dans les psaumes, il est écrit ceci, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Alléluia, Ésaïe 49, 15, vous rendez compte, vous êtes là, vous lisez la parole du Seigneur, mais quelle puissance, quelle force vous prenez à la lecture de ces versets, et nous en avons besoin. Vous savez, David, un jour, il a tout perdu. Sa maison a été brûlée, les femmes ont été enlevées, il n'avait plus rien du tout. Et en plus de cela, le peuple voulait le lapider. Mais David est un homme qui savait puiser les forces dans le Seigneur. Il est écrit ceci, « David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu, dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6. » Cette confiance, cette relation, vous savez, vous le vivez comme moi et tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où on a l'impression que tout va bien, on surfe sur la journée. Et puis il y a des jours, c'est plus difficile. Aïe, aïe, aïe. Des fois, on se dit, j'aurais mieux fait de ne pas me lever. En plus, on a l'impression que voilà, ça s'accumule à chaque fois, c'est des séries. On a besoin, voilà, on a besoin, les uns et les autres, de puiser les forces. C'est dans ces moments d'intimité que Dieu pourra nous faire entendre sa voix apaisante, qui nous rappelle sa fidélité, qui nous rappelle son amour, qui nous dira encore une fois de plus, une millième fois, qu'importe, ne t'inquiète de rien, que rien ne pourra nous séparer de lui. Ça aussi, des versets extraordinaires. L'apôtre Paul dit aux Romains, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Dans Romains 8, 38 et verset 39. Donc ça, c'est une deuxième richesse extraordinaire de l'intimité avec le Seigneur. Nous avons vu pour ranimer le feu du premier amour, nous venons de voir pour aussi puiser les forces nécessaires pour que nous puissions avancer tous les jours, et peut-être une troisième richesse pour lui confier tous nos problèmes. Vous en avez des problèmes ? Il y a ce chant qu'on chante peut-être encore parfois, mais « Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. » Bon, ça veut dire au moins que voilà, on a des problèmes, peut-être plus ou moins importants les uns les autres. La vie, elle est. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu connaît parfaitement toutes les situations de notre vie. Il est écrit que même vos cheveux sont tous comptés. Dans Luc chapitre 12 verset 7, il connaît nos besoins. Il est écrit ceci dans la parole : Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors il connaît parfaitement nos besoins, ça c'est clair. Pourtant il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Alors il connaît tous nos problèmes, et pourtant il nous demande de faire connaître nos besoins. Alors ça peut paraître parfois paradoxal. Excusez-moi, je viens de lire Philippiens 4, verset 7 pour ceux qui prennent des notes. Et tout à l'heure, Matthieu 6, verset 8. C'est dans l'intimité que Dieu, qui connaît tout, comme on vient de le lire, c'est dans l'intimité que Dieu nous invite à lui confier tous nos soucis. Dieu aime, soyez-en convaincus, que nous nous reposions sur lui pour tous nos soucis. En définitive, c'est quoi ? C'est un acte de confiance aussi que nous faisons. Bien sûr qu'il y a une sorte aussi de bienfait de pouvoir déverser, de pouvoir exprimer. Je crois que c'est Janson dernièrement qui parlait de cette dimension un peu psychologique, c'est-à-dire que Dieu connaît qu'on a besoin effectivement d'exprimer. Mais il y a aussi cette dimension de confiance. Vous savez, quand on a confiance en certaines personnes, on est capable de partager des problèmes, des situations. Et plus on est confiant, plus on peut apporter des problèmes profonds, des choses qu'on ne partagerait pas avec certaines personnes. Et finalement, c'est un gage aussi de cette relation de confiance que nous avons avec le Seigneur. Même si on sait qu'il connaît tout, nous sommes invités à lui parler de nos problèmes. Vous savez, quand la relation du couple devient compliquée, les conjoints ne se confient plus l'un envers l'autre. D'ailleurs, c'est un signe. Il y en a qui sourient. Voilà, ça parle. Malheureusement, ils ne se confient plus l'un à l'autre. Ils se confient plus facilement à des collègues de travail, à des amis, etc. Mais je crois que c'est dans... Alors je ne juge pas, hein, je l'ai redit ça, c'est vraiment la troisième fois, alors attention. Hein. Mais je crois que c'est dans l'intimité du couple que l'un et l'autre va recevoir l'écoute dont il a besoin pour pouvoir partager ses peines. Et, c'est important de le dire, même si nous savons que l'autre n'a pas le moyen de solutionner notre problème, nous savons qu'il fera ce qu'il peut, il fera tout ce qu'il peut pour nous. Et déjà, comme je disais tout à l'heure, parler soulage. Parler, ça fait du bien, pouvoir exprimer. Mais nous savons que quelqu'un qui nous aime véritablement, il sera amené à faire tout ce qu'il peut. Voilà, même s'il ne peut pas avoir toute la solution, nous savons que nous avons quelqu'un, eh bien, qui mettra tout en œuvre pour répondre et pour apporter la solution. Le Seigneur connaît nos faiblesses, il connaît la difficulté que nous avons à ne plus nous inquiéter. Et je crois que c'est dans sa grâce qu'il nous donne ce moyen de la prière pour nous confier en lui. Je dirais d'une certaine manière, vous savez, pour vider notre sac. Eh oui. Non pas avec un vague espoir qu'il nous entend, non, pas du tout. Mais en sachant ceci, et retenez-le ce soir, c'est que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Qu'importe la manière dont il le fera, qu'importe le moment qu'il utilisera, nous savons que comme il nous aime, il fera tout pour notre bonheur. Alléluia. Même si Dieu peut nous dire « ce n'est pas le moment », peut-être Dieu pourrait nous dire « j'ai meilleur pour toi », voilà, je connais mieux le besoin de ton cœur. Nous savons, et cela fortifie nos cœurs et nos âmes, nous savons qu'il fera tout pour notre bien. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. C'est Romains 8, verset 28 que je vous ai lu. Dans l'intimité avec le Seigneur, je dépose mes fardeaux et je reçois sa paix. Je sais qu'il s'occupe de moi. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça, c'est 1 Pierre 5, verset 7. Je ne vous ai pas fait trop lire ce soir. Ça ne me ressemble pas. Hein. Allez, Matthieu 6, 6. Et puis après, on arrive au dernier point. Matthieu 6, verset 6. Allez, moi je vous le lis dans la version Sommer. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Amen. Ces moments où nous nous isolons, c'est fait référence à la relation d'intimité, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, un endroit où nous aurons ce moment seul à seul avec lui. Rappelez-vous Jésus, qui bien souvent, malgré la foule qu'il y avait autour de lui, eh bien il partait, il montait un peu sur la montagne, voilà. La montagne, c'est très bénéfique. Et qu'importe le lieu, l'endroit, chacun nous savons les uns et les autres ces moments où nous savons que nous pouvons avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Donc les richesses de cette intimité avec le Seigneur, un, pour ranimer la flamme du premier amour, le feu du premier amour, cet amour. Deux, pour y puiser des forces. Trois, comme nous venons de le lire, pour lui confier nos problèmes et aussi nos soucis. Et aussi peut-être, on terminera par cette pensée, pourquoi cette richesse aussi de l'intimité avec le Seigneur? Eh bien pour recevoir les secrets du Seigneur. Vous savez, nous avons tous des jardins secrets. Non ? Et je crois que c'est dans l'intimité du couple que nous pouvons le plus ouvrir les portes de ce jardin. Et de la même manière, vous savez, Dieu a des secrets. Il y a des choses qu'il ne nous révèle pas. Mais il y a des choses qu'il veut nous révéler. Dieu a des secrets qui peuvent être révélés à ceux qui vivent cette intimité avec lui. Rappelez cette histoire de Noé. Noé est le seul à qui Dieu a révélé ce qui allait arriver. Il était le seul. Abraham, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorre, s'est entendu dire ceci, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Dans Genèse chapitre 18, verset 17. Dieu a des secrets, il a des intentions, il a des projets. Alors certains, il ne les révélera pas. On le voit dans l'histoire de Job, vous savez, nous, c'est facile de lire Job parce que voilà, on a le prologue. Job, il ne savait rien, il ne connaissait rien. Donc parfois, Dieu ne nous le révèle pas, ça, il reste souverain. Mais on voit que parfois, Dieu a envie de partager ses secrets, comme dans ce témoignage avec Abraham, lorsqu'il y a la destruction de Sodome et Gomorre. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Genèse 18, verset 17. Il y a aussi ce psaume qui dit ceci, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Psaume 25, verset 14. Vous avez aussi d'autres exemples. C'est bien sûr Daniel. Daniel qui a reçu beaucoup de secrets de la part du Seigneur, même pour les autres. Vous avez notamment le chapitre 2 de Daniel, si vous voulez le lire. Très intéressant pour réaliser que c'est dans l'intimité avec le Seigneur que Dieu veut aussi nous révéler ses secrets. Jean est le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il y avait une relation très particulière, une relation de proximité. Jean était ce disciple que Jésus aimait. Il est écrit ceci, « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Jean 13, versets 23 à 26. Et oui, les autres apôtres savaient aussi qu'il y avait cette relation d'intimité. Et savaient que, voilà, s'ils demandaient à Jean de demander à Jésus, peut-être qu'ils sauraient des secrets qu'eux n'auraient pas su. Et c'est extraordinaire de voir que c'est ce même Jean qui a écrit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui veut dire révélation. C'est Jean, ce disciple que Jésus aimait, qui avait cette relation de proximité, qui a reçu toute cette révélation. Dieu a fait connaître, au travers de Jean, les secrets des temps à venir aux disciples qu'il aimait. On pourrait conclure en disant ceci, Jésus est certainement pour nous le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Je le disais tout à l'heure et il est écrit ceci, « Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Alors ça fait référence à cette pièce retirée dont on parlait tout à l'heure, ou quel que soit le lieu. Je vous ai lu Matthieu 14, verset 23. Et c'est vrai que quand on regarde la vie de Jésus, il y avait la foule, il y avait beaucoup de préoccupations, il y avait beaucoup de choses qui pressaient certainement son cœur, mais il savait s'isoler, prendre ses temps particuliers pour eh bien, enrichir cette relation d'intimité avec son Père. Jésus recherchait des moments d'intimité avec son Père, seul avec lui, cette notion d'être seul avec lui, qui fait référence à cet endroit dont on parlait tout à l'heure, reculer de toutes les préoccupations et des bruits de la vie. Il était à l'écart de la foule. Il y a cet autre texte où il est dit ceci, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. » Vous voyez, c'était sa chambre à lui, fermée. « Un lieu désert où il pria » dans Marc chapitre 1er et le verset 35. Voilà tout un programme pour vivre ce que nous avons chanté, te connaître Jésus. Et je crois que dans sa sagesse, si Dieu nous a encouragés plusieurs fois à prendre ces temps particuliers autour de sa parole, quel que soit chacun d'entre nous, après des années de marche avec le Seigneur, nous savons les lieux, les moments, les temps, les circonstances qui sont favorables pour nous approcher de lui, et c'est important de le faire. Comme je disais tout à l'heure, on a pu constater que certains chrétiens ne profitaient que de ces moments de culte et ils étaient vraiment fortifiés, encouragés. Dieu soit béni pour ces temps-là, ils sont aussi nécessaires. Mais on ne peut pas s'appuyer que sur ces moments-là. Nous avons besoin les uns et les autres, je pense, parfois, vous savez, à l'église persécutée. Est-ce que parfois, si on vit que des moments d'intimité lorsqu'on est réunis dans des églises, et si un jour elles étaient fermées pour X raisons, on a besoin d'avoir cette relation vraiment personnelle, vivante, cette relation d'intimité avec le Seigneur. Et nous verrons que, eh bien, le Seigneur a une grande richesse pour chacune de nos vies, ranimer ce feu du premier amour, confier ses problèmes, voir toutes ces situations. Et qui sait, peut-être le Seigneur nous révéler aussi des choses qu'il ne nous aurait pas révélées dans d'autres circonstances. On va prier le Seigneur ensemble. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Quel jour merveilleux où nous t'avons rencontré. Nous nous souvenons ensemble, Seigneur, que nous étions remplis de joie, remplis d'amour pour toi. Nous voulions parler de toi tout autour de nous. C'était comme si rien ne pouvait nous arrêter, Seigneur. Nous avions envie de partager cette bonne nouvelle de ce que tu avais fait dans notre vie. Mais nous pouvons réaliser, Seigneur, qu'avec les aléas de la vie, parfois, eh bien, cet état de cœur n'est pas resté continu. Et nous réalisons que peut-être pour différentes raisons, sans juger les cœurs, que peut-être nous avons été négligents dans cette relation avec toi. Et nous te bénissons ce soir parce qu'au travers de ta parole, tu nous montres encore une fois de plus à côté de quoi nous pourrions passer si nous ne faisons pas comme Jésus faisait, de prendre ces temps de relation avec le Père, ces temps de qualité, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, qu'importe, mais ces moments régulièrement, afin de pouvoir puiser toutes ces forces nécessaires, Seigneur, afin que cet amour que nous avons pour toi soit toujours le même, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile. Les gens que nous côtoyons le plus sont des gens qui ne te connaissent pas. Aussi, nous te remercions pour l'Église que tu nous as donnée, cette joie de pouvoir partager les uns et les autres, et cet endroit où aussi, ce rendez-vous où tu es particulièrement présent, comme ce soir. Merci parce que tu es là pour souffler sur cette braise de nos cœurs, afin que le feu soit ravivé, Seigneur, afin que nos forces soient fortifiées, Seigneur, afin que nous puissions t'apporter nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes. Seigneur, nous voulons rentrer dans tes projets, tes desseins que tu as pour chacune de nos vies. Merci, oui, comme nous l'avons chanté, nous irons te connaître. Pas seulement savoir quelque chose de toi, mais avoir un cœur à cœur avec toi. Seigneur, rentrer dans cette connaissance réciproque afin que nous puissions grandir aussi dans cette confiance en toi. Seigneur, merci pour ces moments, que ta parole, Seigneur, porte le fruit dans notre vie, un fruit qui ira jusque dans l'éternité. Te remercions, Seigneur, pour la joie que nous avons d'être ensemble. Et merci, Seigneur, de pouvoir, c'est vrai, nous appuyer encore sur toi, quels que soient les temps et les circonstances que nous vivons. Que ton nom soit béni. Amen.